La philosophie. Une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une seconde émission intitulée Marianne sur le divan, sous-titre Laïcité et psychanalyse, avec nos deux invités qui sont les deux auteurs de ce livre, Jean-Bernard Paturet et Chérif Toubal. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, le mieux, c'est d'avoir écouté la première émission, mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, bien que ce soit en podcast, qui résume notre première émission avant de...
Résumer, wow.
Résumer, ou dire, voilà, qu'est-ce que nous avons dit de si important, en sachant aussi qu'il y avait une émission itinérance hein, sur le livre de Chérif Toubal, Les étoiles ne mentent pas, parcours d'un Français musulman, qui a donné l'occasion que vous vous rencontriez tous les deux, que Chérif fasse sa thèse, et ce livre, donc, Marianne sur le divan, laïcité et psychanalyse. Alors, on avait terminé sur Personne n'a la vérité.
Oui, alors c'était la quête en fait de complétude, le fait d'être plein, le fait d'être effectivement d'avoir la vérité, d'avoir la vérité pour tous en fait. Mmh. Et nous disions qu'effectivement c'était pas que le sujet humain du côté de la psychanalyse est par essence manquant, voilà de manière ontologique, nous avons dit structurelle. Donc et en fait nous sommes en quête en permanence d'un Dieu effectivement d'une présence comme ça qui viendrait nous rendre la complétude et ne plus être manquant quoi.
Alors quand je vous écoute, je pense bien sûr à tous ces tout au long de l'histoire sur des siècles et des siècles tous ces dictateurs qui croyaient détenir la vérité, la certitude. Nous sommes dans un contexte politique où il y a beaucoup de ce dictateur. Poutine vient d'être élu avec 100% des voix, quoi, pratiquement.
88, je crois.
Oh, que 88.
Et oui, il ne faut pas que ce soit 100% en même temps, sinon ça ne serait pas démocratique, entre guillemets.
Et vous me disiez, Jean-Bernard, ça ne se résume pas à la folie. Si tout dictateur faisait une psychanalyse, il serait déjà guéri.
S'il acceptait de faire une psychanalyse, il aurait déjà fait un bon chemin. C'est-à-dire, en particulier... il aurait accepté de ne pas être le tout, de ne pas être dans la totalité, de ne pas être dans l'incomplétude. Hein? Et alors, je crois que c'est quelque chose qui est impossible vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, qui soient pas, même s'ils ne sont pas un dictateur, c'est vraiment compliqué, d'accepter de ne pas être manquant. Quoi. Mmh. Ça n'est pas la psychanalyse qui a inventé cette idée-là. On trouve déjà ça chez Platon, par exemple. Cette idée-là chez Platon de ce qui nous fait humains, c'est le fait que nous soyons manquants. C'est ce que vient nous signifier, alors je le dis à partir peut-être de la philosophie plus que de la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle l'interdit de l'inceste. Mmh. L'inceste, c'est le fait de ne pas être manquant. Et l'interdit de l'inceste, ça vient nous rappeler... que ce qui nous fait humains, c'est que nous sommes dans le manque, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans le tout, enfin, ce que Chérif a très bien expliqué à la fin de la première émission, et ce qu'il vient de rappeler, qu'il vient de rappeler tout de suite. Lévi-Strauss disait que ce qui fait société humaine, c'est l'interdit de l'inceste. Mmh. C'est l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire accepter de ne pas. Alors, si effectivement un dictateur accepte d'être manquant, alors il n'est plus
dictateur.
Et ce qui est toujours surprenant, c'est qu'on pense à l'Allemagne d'Hitler ou à l'Union soviétique de Lénine, de Staline, c'est qu'il y a toujours toute cette masse qui le suit. Moi, ça m'interroge toujours beaucoup.
Mais c'est parce que cette personne-là vient comme une espèce d'archétype. De modèle pour dire aux gens, vous voyez, moi je ne manque de rien, je suis le tout. Et si vous me suivez, vous serez aussi là-dedans. Et comme nous sommes, ce que représente le dictateur, c'est fondamentalement quelque chose comme ça, mais c'est aussi celui qui vient, c'est la conséquence de ne pas être le tout, qui vient nous aider à assumer ce que nous ne supportons pas, c'est-à-dire notre responsabilité, notre sexualité, en tant qu'elle nous renvoie à la castration, justement. Et donc, quand quelqu'un assume tout ça pour nous, nous sommes très contents, très heureux. Donc les dictateurs ont encore de beaux jours devant eux. Enfin, peut-être pas Poutine ou d'autres. Poutine, parce que vous en avez parlé. Mais il en viendra d'autres. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on va supprimer Poutine. Bon, ça serait bien que les choses bougent, hein, je ne dis pas le contraire, sûrement. Mmh. Mais ça ne changera pas parce qu'il y a une aspiration humaine à ne pas manquer. Et donc, du même coup, quand l'autre vient nous dire « Mais non, vous ne manquez pas, voyez, moi, je ne manque de rien, je peux m'occuper de tout, je peux vous dire ce qu'il faut faire, comment prendre vos responsabilités, et surtout, vous ne cassez pas la tête, je m'occupe de tout. » C'est ça qui est en jeu. La sexualité aussi. Quoi.
C'est le dernier chapitre de Marianne sur le divan, hein, « Devenir responsable ».
C'est ça.
Ça serait la conclusion.
Oui. Alors, on n'a pas la réponse, on ne dit pas justement...
Dans la conclusion du livre, je parle.
Oui, mais y compris dans la conclusion du livre, on ne dit pas comment il faut faire, quoi. Voilà. Parce que il faut bien faire la différence entre ce qu'il en est de la psychanalyse et ce qu'il en est aujourd'hui de ce qu'on appelle les psychologies, développement personnel, des choses comme ça.
La recherche du bonheur.
Voilà, voilà. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais pour dire déjà comme quoi, effectivement, et pour revenir à notre thème sur la laïcité, j'aimerais citer ici Spinoza, qui fait donc l'introduction de notre texte. Je le cite là d'abord. « Nous voyons très clairement combien il est pernicieux, tant pour la religion que pour l'État, d'accorder au ministre du culte le droit de décréter quoi que ce soit ou de traiter les affaires de l'État. » Spinoza qui nous dit ça déjà au XVIIe siècle, hein, c'est très important. Et c'est-à-dire que les Lumières, il faut bien comprendre de quoi on parle, c'est-à-dire que c'est vraiment un Occident et c'est né ici. Quoi. À ma connaissance,
France a aussi cette réputation, le pays des Lumières.
Spinoza, on dirait aujourd'hui hollandais, il est de tradition d'ailleurs juive lui aussi, mais c'est très intéressant de voir comment il insiste sur le fait que attention à ne pas donner aux clercs en fait le pouvoir, parce qu'il y a chez les clercs, même si c'est dit avec, je dirais, de la bonne intention. Et on connaît effectivement le proverbe, effectivement, l'enfer est pavé de bonnes, intentions. Hein. C'est-à-dire que même si c'est rempli de bonnes intentions, l'envie de récupérer cet ensemble-là pour créer ce tout dont on parle depuis tout à l'heure est toujours là, présent. Quoi. C'est en ça qu'effectivement, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, le politique, en tant que tiers, doit intervenir aussi. Doit intervenir. Mais la fragilité, je dirais, de la structure et humaine fait que le personnage qui est là pour représenter donc l'État peut très bien, facilement, glisser lui aussi individuellement vers cette envie de récupérer le tout. Quoi.
Mais vous dites l'État comme le religieux. Hein, oui. Et on voit dans beaucoup de pays la puissance des religieux. Et on a autour de nous des exemples assez terrifiants. Je pense, c'est peut-être hors sujet, mais la condition de la femme dans l'islam, c'est assez terrifiant. Comment un homme,
on pourrait le remettre à un autre niveau, ce que disait tout à l'heure Jean-Bernard. Peut-être on insiste un peu trop de ce côté, je ne sais pas.
Une libre discussion. Après, on va prendre le livre et on lit et on réfléchit, on en rediscute.
Sur la question de la sexualité, quoi. Quand vous dites femme, moi j'entends homme aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que il y a dans ces deux dimensions sexuées, il y a un sexe et un autre. Donc il y a quelque chose qui vient me rappeler, moi en tant qu'homme ou alors en tant que femme, que je ne suis pas complet. Il y a, peut-être, je vais peut-être laisser la parole à Jean-Bernard, mais sur Platon avec le banquet, sur le mythe de l'hermaphrodite en fait.
Oui, donc Platon avait déjà repéré l'affaire depuis 2500 ans, 2300 ans. Enfin, et que la psychanalyse a repris, et Freud lui-même, dans le texte Au-delà du principe de plaisir de 1920, où il reprend carrément le texte de Platon, en supprimant un peu ce qui le gêne un peu, enfin, en tout cas ce qu'il ne veut pas traiter, c'est-à-dire la question de l'homosexualité. Mais il était reparti sur l'analyse de ce mythe, de ce mythe platonicien de l'androgyne, c'est-à-dire de cette idée que au fond, ce qui nous fait humain, c'est d'un côté l'aner, andros, l'homme, et le gunaïs, gunaïkos, gynéco, la femme. Hein. C'est cette union-là des deux, quoi. Hein. Mm. Et que quand Zeus sépare l'androgyne en deux, ce que fait l'androgyne et ce que fait chacune des parties de l'androgyne, c'est d'essayer de retrouver l'autre et de ne plus jamais se séparer.
Et c'est vrai qu'on assimile très souvent psychanalyse à sexualité. On parlait de la mauvaise presse qu'a la psychanalyse, mais peut-être parce que justement il y a ce côté sexuel. Alors la psychanalyse, c'est pas que cela.
Non, c'est l'idée que la psychanalyse ne serait que ça.
Oui.
C'est le pansexualisme de la psychanalyse qui est mis en, et aussi sa dimension non scientifique, dit-on, comme si la science était la science contemporaine telle qu'on la conçoit actuellement était la panacée
de
la connaissance. Voilà, c'est ça.
Et alors par rapport à la laïcité, alors parce que là, est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas? Est-ce qu'on pose le problème fondamental?
Pourquoi on le pose comme ça? On a voulu le poser comme ça pour dire ce qu'on disait sur la première émission, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aborder la question de la laïcité, accepter que quelqu'un d'autre ait une autre vérité, si déjà en soi, on n'accepte pas le fait que je ne suis pas complet. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, la plénitude. Je suis aussi un être manquant. C'est-à-dire que c'est le rapport, c'est-à-dire que le rapport à la loi. C'est-à-dire qu'on pourrait le dire comme ça, le rapport à la loi, je dirais, sociale, parlementaire, ouais, ce que les députés votent, ce que les députés votent au Parlement. D'ailleurs, c'est intéressant, le Parlement, donc c'est le lieu où l'on parle.
Voilà, donc
et on ment.
J'avais pas vu ça comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc c'est le Parlement, cet espace où on parle. En fait, on utilise constamment, vous avez fait référence sur la première émission, sur ce qu'on appelle la loi symbolique. C'est-à-dire que tant que effectivement on n'a pas fait sienne cette loi symbolique-là, ça va être compliqué d'accepter la loi sociale. Pour autant, ce qui est quand même important à préciser, c'est que la loi symbolique qui est inscrite dans la façon dont je parle, c'est-à-dire que je suis un être parlant, en fait, elle est là de fait. Et de la même manière qu'on a dit à l'émission précédente sur la dimension de l'imaginaire, la puissance de l'imaginaire, je suis un être manquant, parlant, désirant. Voilà, j'ai ces trois dimensions là, mais je peux très bien, parce que je suis un être parlant, me mettre à imaginer ce que je veux et au fond tout d'un coup ne plus accepter les lois sociales, je ne les fais plus miennes, en fait. Je n'accepte pas de vivre comme vous voulez que je vive. C'est-à-dire que, vous voyez, on est parti de la dimension sexuée. Moi je ne dis pas sexuelle, je dis sexuée, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un rapport entre deux qui n'est pas le même, et en fait ça ne vient dire simplement que le manque. Que le manque en permanence. Nous ne sommes pas les deux en même temps. D'ailleurs, c'est très intéressant de se poser la question sur les LGBTQ+.
Vouloir être tout. Alors, si on n'a pas tout, est-ce qu'on a des sauvages? Je dis ça parce que, Jean-Bernard, vous avez choisi la danse des sauvages de Rameau dans les Indes galantes. Pourquoi? Parce que c'est une très belle musique, mais aussi qu'il y a toute une symbolique.
Oui, c'est une très belle musique, tout d'abord. En tout cas, j'aime beaucoup. Et puis, parce que je me suis toujours demandé, en écoutant ce morceau des sauvages, qui est le sauvage? On pourrait nous faire croire que c'est nous, les colonisés, qui sommes les colonisateurs, pardon. Excusez-moi que là-dessus. Qui sommes les civilisés. Et au fond, Rameau nous montre un peu le contraire, quoi. Ce rapport à la nature, cette confiance dans la vie, dans l'amour, etc., que je trouve très beau et qui vient compenser, qui peut-être est d'époque aussi, dans ce fantasme d'un retour à la nature qui est sans doute assez... assez compliqué. C'est pas parce qu'on va planter 50 000 arbres à Montpellier que c'est très bien, mais ça ne résoudra pas forcément la question. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que les sauvages me plaisent beaucoup.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous abordons la deuxième partie de la seconde émission intitulée « Marianne sur le divan, laïcité et psychanalyse » avec Jean-Bernard Paturet et Chérif Toubal. Nous progressons, nous donnons, vous donnez des définitions, mais c'est surtout, vous ne donnez pas de solution. Hein, et vous essayez de briser, enfin d'aller contre certains clichés, déjà les clichés de la psychanalyse. Et puis, vous me disiez, si tout dictateur était fou, ça serait bien trop simple. On est bien dans cette notion du manque. Et justement, dans toutes ces situations extrêmes, dans beaucoup de pays, hein, je ne parle pas que de la Russie de Poutine, je parle aussi d'Israël, je parle aussi de la Palestine, je parle de l'Ukraine. Pourquoi ce besoin d'être un tout aboutit à de telles extrémités?
Il y a chez chacun des sujets, c'est pour ça que c'est quand même important de bien dire que, enfin, ce serait trop facile de dire que Hitler était fou. Voilà. Je ne suis pas, moi, protégé du fait que j'ai aussi des désirs de toute puissance, quoi. Lorsque je suis allé, il n'y a pas très longtemps, visiter les camps de Auschwitz, j'ai été marqué par une chose, c'est la qualité du travail. Je vais le dire comme ça, hein, voilà, c'est un peu, j'espère que ce n'est pas provoquant, mais vous voyez, tout était bien fait, tout était bien calculé. C'est-à-dire que rien ne devait être perdu. C'est-à-dire, tout était, ici, il y avait des barreaux, là, il y avait ce mur-là, parce qu'on passait par là. Vous voyez, tout était parfaitement bien construit.
Mais c'était dans un but économique. On parle dans un but idéologique, mais aussi économique, hein, rentabiliser au maximum.
Voilà,
hein.
Complètement. Enfin, j'ai été surpris de voir que, moi, je pensais que c'était peut-être, un récit, un mythe.
Dès le début, il y avait la récupération des biens, des tableaux, il y a tout cet aspect, les cheveux pour le savon. Enfin, moi aussi, ça m'avait énormément frappé que tout était utilisé. Et de vous dire qu'un morceau de savon, c'était les cendres d'une personne.
C'est ça qui m'a frappé. Moi, j'avais du mal à le croire. Mais c'était vraiment sidérant.
Donc, il y a le côté idéologique, il y a le côté racial, mais il y a aussi ce côté économique.
C'est pour ça que je voudrais citer, si vous permettez, citer ce que dit Kant sur la nature humaine. Donc, il nous dit quelque chose qui est quand même assez fort. Hein. La nature humaine est si mauvaise et si tordue que l'on ne peut y tailler des poutres droites, et d'autre part qu'elle est inachevée et du même coup malléable et perfectible. Il faut donc un tuteur, une autorité dans le sens étymologique de faire grandir, faire croître. Je pense que c'est très fort, en fait.
Mais si l'autorité est dévoyée...
Voilà, mais toute la question est là. Ouais. C'est-à-dire que ce que nous dit Kant là, c'est que... Alors, il dit par ailleurs, attention, hein, c'est un peu le maître en pensée des Lumières, hein, lorsqu'il nous rappelle aussi que voilà, le sapere aude, hein, oser penser par soi-même. Donc ça, c'est un acte de libération. Mais en même temps, il y a cette possibilité toujours de glisser et de transformer l'autorité en autoritarisme. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que le terme autorité, quand même, signifie devenir auteur, grandir. Autoritas, pardon, c'est cette idée de grandir, oui, de faire croître. Donc il y a nécessité d'avoir cet appui, ce tuteur, mais en même temps, c'est un danger aussi dans le sens où tout peut glisser de l'autre côté, et toujours avec ce désir de retrouver la complétude, c'est-à-dire de retrouver le tout.
Et alors cette notion de laïcité qui est le point de départ de votre réflexion, c'est la panacée, c'est la solution,
c'est une forme historique qui est la France, mais qui permet quand même de limiter. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur le terme de limite, mais qui permet de limiter un peu la toute-puissance. Alors, comme tu sais, pas seulement d'Hitler, enfin, Hitler, c'est fini, mais de tout un chacun. C'est quand même ça la force de la laïcité et pas la demande d'une adhésion à une autre religion.
Ouais.
On a quand même des auteurs musulmans qui disent que la laïcité est quand même quelque chose de très, très important. Parce que justement, elle permet la limite de la toute-puissance d'un certain nombre de gens, en particulier des clercs.
Mais ils ont dû être martyrisés, oui.
Des contemporains. Alors peut-être pas qu'ils sont vénérés partout, mais il y a des gens qui
font ça. Oui, parce que c'est la notion des opposants, en fait. Ouais. Quel que soit, quand il y a des rives, il y a toujours des opposants.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais, en même temps,
excuse-moi, je voulais. Ça va un peu dans le même sens, mais dire quand même que. S'il y a eu Hitler, s'il y a eu Staline, s'il y a eu Poutine, si on veut, je ne suis pas suffisamment qualifié pour dire si Staline est un dictateur. On peut le penser, bien entendu. Hein. Mais c'est toujours parce qu'il y a un cadre. Vous demandez pourquoi il y a tellement de gens qui suivent. Mais il y a aussi un cadre historique, il y a un cadre collectif. Probablement qu'il n'y aurait pas eu Hitler s'il n'y avait pas eu le diktat de Versailles, par exemple, c'est bien possible. Parce qu'on a humilié l'Allemagne et que, collectivement, il y a eu quelque chose qui a été blessé par, par cette humiliation. Et Hitler s'est glissé là-dedans. Mais il y a eu des suiveurs parce qu'il y a des gens qui étaient blessés aussi. Il apprécie comme une sorte de réparateur, d'une certaine façon. Alors, on voit où ça a mené, ça, c'est autre chose.
Oui, puis on peut faire... Enfin, je ne compare pas du tout Israël à Hitler, mais la naissance d'Israël, c'est aussi le résultat de la Shoah. Et puis, c'est un contexte très particulier en 1947, où il y a eu un moment où Israël a pu se créer. Donc, il y a toujours, comme vous dites, Chérif, cette notion de la loi qui doit gérer les dérives, et c'est très, très...
C'est très fin.
Oui, mais c'est très fragile.
C'est très fragile, oui, effectivement. Ouais. Quand vous dites sur la laïcité, par exemple, donc là, qui est un principe, qui n'est pas une loi, ça va donner, ça va créer la loi de 1905, mais ne pas comprendre, en fait, l'historicité de, de ce moment-là, c'est ne pas comprendre la manière dont la France s'est structurée. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est très difficile. Vous me posiez tout à l'heure la question, peut-être de manière un peu spécifique par rapport aux gens d'obédience musulmane, mais lorsqu'on grandit dans un univers islamique, je dirais, cette question-là de la non-présence de Dieu, c'est pas possible. Je veux dire, je parlais sur la première émission de l'importance du langage. Les musulmans utilisent constamment le nom de Dieu. Inch'Allah, Mashallah, vous voyez, Alhamdulillah, vous avez beaucoup de mots comme ça qui sont utilisés en permanence chez les musulmans.
Dieu, mais qui peuvent être vite de sens.
Dieu est présent. Parce que par le symbolique, il est là, présent. C'est-à-dire qu'il il pose un univers, en fait. Il y a un univers qui est déjà là. Et il faut essayer d'imaginer la fracture que ça a pu fabriquer. Alors pour le coup, l'imaginaire, on va aller le convoquer. La fracture que ça a pu produire, une phrase comme celle de Kant, oser penser par vous-même. C'est-à-dire que c'est une véritable fracture dans l'histoire. Et vous allez voir naître là, vous allez voir apparaître une autre manière d'être au monde. Et ça va complètement changer. Et c'est ce qui va faire naître, on peut dire que même si effectivement la laïcité est née, enfin, ce terme laïcité d'ailleurs par Ferdinand Buisson, est né beaucoup plus tard, donc en 1905, mais quand même, le premier principe, donc la déclaration des droits de l'homme, tous égaux, et chacun a le droit de dire, effectivement, d'exprimer ses opinions, y compris religieuses. Et ça, c'est né aussi, effectivement, c'est la conséquence de ce qui s'est passé entre catholiques et protestants des siècles avant. Oui, c'est tout le temps comme ça, c'est des mouvements. Et si on ne comprend pas d'où vient ce principe-là, ça va être très compliqué de faire de la France son pays, quoi.
Alors comment vous voyez l'avenir, que la laïcité va être comprise, va triompher, qu'il y a tout encore un travail, vous parliez du DU, diplôme universitaire, il y a énormément de pédagogie à faire.
Il y a énormément de DU d'ailleurs, de travaux qui se font. Même si on conteste la laïcité, on est quand même à un moment où on se questionne sur la laïcité, sur sa problématique, sur sa façon de voir les choses, de s'organiser. On nous oppose la laïcité anglo-saxonne, pour faire vite, enfin, qui n'est pas la même que la nôtre, en tout cas. Mais ça ne fait rien. Tout ça met en travail, quoi. Et je pense que plus on va en parler, mieux ça vaut d'une certaine façon, à condition que les politiques ne s'en emparent pas pour faire je ne sais quel projet plus ou moins clair, et en tout cas qu'ils permettent que ce soit un espace d'échange, c'est ça qui est sans doute
là aussi il y a une espèce d'ambivalence qui s'est largement installée, parce qu'il faut bien, enfin si on regarde un peu sur le plan historique aussi, il faut bien comprendre d'où on vient. Il faut bien se rappeler par exemple que au début du siècle, enfin je parle du 19e siècle, enfin les personnes noires, enfin chocolat, choses comme ça, enfin, voilà, banania, tout ça, quoi. Donc, on part de là, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on se demandait si les Noirs, ils avaient une âme.
Étaient des êtres humains.
Oui, s'ils avaient une âme, quoi. Voilà, donc, on part de là. En tous les cas, les femmes aussi, c'était pas sûr, quoi.
Donc, il y a des possibilités, il faut continuer, il faut travailler, Et votre livre, La Marianne sur le divan, aux éditions de l'Harmattan, contribue à tout ce travail de réflexion.
C'est ça, on peut l'espérer.
On peut l'espérer.
Participe à ça.
Merci à tous les deux et je rappelle Marianne sur le divan, laïcité et psychanalyse aux éditions L'Harmattan. Et Les étoiles ne mentent pas, parcours d'un français musulman par Chérif Toubal et c'est aux éditions du Puy du Roule. Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.